le journal Elia Bergel.
Bonjour à tous. Le grand pèlerinage à la Mecque, le Hadj, a commencé aujourd'hui. Des millions de pèlerins sont attendus. C'est un défi sécuritaire pour l'Arabie Saoudite. Israël a autorisé la livraison de courriers aux Palestiniens des territoires occupés, des lettres et des colis coincés en Jordanie depuis plusieurs années, nous expliquera Marine Vlaovic. Le nombre de morts revu à la hausse en Inde suite aux inondations massives dans la région du Kerala, 357 morts. Les pluies diluviennes sont terminées, mais des milliers d'habitants restent sinistrés. Le Venezuela va émettre un nouveau billet demain. C'est une énième mesure pour tenter de maîtriser l'inflation galopante. Celle-ci pourrait atteindre 1 million de pourcents cette année. Plusieurs cas de peste porcine ont été détectés en Chine. De quoi inquiéter ce pays, premier producteur et premier consommateur de porc au monde. Et puis en Angleterre, le cofondateur de la marque Superdry fait don d'1 million de livres sterling pour un nouveau référendum sur la sortie de l'Union européenne. Alors que les négociations avec l'Europe vont reprendre, pro et anti-Brexit fourbissent leurs armes, nous dira Marina Daras. L'Arabie Saoudite s'apprête à accueillir 2 millions de croyants à partir d'aujourd'hui. Le Hadj, le pèlerinage, a lieu à la Mecque. Ce rassemblement religieux annuel, l'un des plus importants au monde, présente de multiples enjeux pour les autorités saoudiennes. Des enjeux logistiques d'abord, économiques, mais aussi sécuritaires. C'est ce qu'explique David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Démographiquement, c'est un enjeu pas seulement religieux, c'est aussi un enjeu sécuritaire dans tous les sens du terme. D'abord parce qu'il y a une logistique, il faut prendre en charge des pèlerins qui viennent pour la plupart de l'étranger, 70% qui viennent de l'étranger. Et puis également évidemment sécuritaire au sens premier du terme. On sait que le Royaume d'Arabie Saoudite est confronté à une menace terroriste récurrente. D'ailleurs, on évoque assez récemment le démantèlement d'une cellule terroriste. Donc on voit bien que le défi que représente la gestion du Hadj est considérable pour les autorités saoudiennes.
On se souvient aussi de cette bousculade en 2015, 2300 morts, une immense tragédie. Comment l'Arabie Saoudite a amélioré les conditions de sécurité ?
Alors, d'aucuns évoquent un smart Hadj aujourd'hui qui collerait assez bien avec la dynamique prônée par le prince héritier Mohammed bin Salman, avec un certain nombre de développements technologiques, des applications destinées aux pèlerins, des bracelets électroniques pour suivre les pèlerins qui seraient susceptibles effectivement d'avoir un suivi médical. Et qui permet également, évidemment, une traçabilité des différentes origines de pèlerins. Donc, il y a l'idée, effectivement, de maximiser par la technologie le bon déroulement, effectivement, des divers rites inhérents au pèlerinage.
L'Arabie Saoudite s'apprête à accueillir 2 millions de croyants à partir d'aujourd'hui. C'était donc le reportage de David Rigoulet-Rose au micro de Laurent Sénéchal. Un premier convoi humanitaire est arrivé hier dans la ville de Ghanzi en Afghanistan. Cette ville au sud de Kaboul a fait l'objet de violents combats entre les forces de sécurité régulières et les talibans. Près de 2000 familles vont bénéficier de cette aide humanitaire. Le 9 août dernier, les talibans ont repris Ghazni d'assaut. L'armée afghane épaulée par des raids aériens américains a mis plusieurs jours pour les repousser. 100 soldats afghans seraient décédés, ainsi que 20 à 30 civils, d'après le ministre de la Défense afghan. En Algérie, 2 enfants ont été tués et 4 grièvement blessés dans l'explosion d'une grenade artisanale. Le drame s'est produit à l'est d'Alger, a indiqué aujourd'hui le quotidien El Watan. Selon des médias, la grenade avait été placée par des islamistes pour compliquer le travail des forces de sécurité qui les traquent dans les montagnes. Les 2 enfants décédés avaient 10 et 12 ans. L'Algérie annonce régulièrement avoir tué des islamistes radicaux lors d'opérations présentées comme antiterroristes. Des milliers de Palestiniens des territoires occupés vont enfin recevoir leur courrier, et avec quelques années de retard pour certains, car depuis 2010, plus de 10 tonnes de courriers en provenance du monde entier étaient bloquées par Israël à la frontière jordanienne. C'est l'État hébreu qui contrôle le point de passage entre la Jordanie et la Cisjordanie occupée. La livraison de ces montagnes de lettres et de colis a été autorisée la semaine dernière. Alors conséquence, forcément, les postiers palestiniens ont désormais du pain sur la planche. Le reportage de la correspondante de RFI, Marine Vlaovic, au centre de tri postal de Jéricho.
Des sacs remplis de courriers sont entassés dans l'entrepôt. Ramadan Razaoui, le responsable du centre de tri de Jéricho, se ferait un chemin entre les colis.
Ça, c'est une télé qui vient d'Abu Dhabi. Date d'envoi, le 27 septembre 2012. Même une bouteille à la mer irait plus vite que ça.
Un peu plus loin, c'est un fauteuil roulant en provenance de Turquie et à destination de la bande de Gaza qui attend d'être livré depuis 2015. Au total, plus de 10 tonnes de lettres, de cartes postales, mais surtout d'articles achetés sur Internet sont finalement arrivés en Cisjordanie après avoir été bloqués pendant 8 ans par Israël. En cause, selon les Palestiniens, une simple question administrative. L'État hébreu, lui, ne fournit aucune explication.
Mais c'est bien que nous ayons reçu ce courrier, car mieux vaut tard que jamais. Et tout ça, ce sont des cadeaux, des choses importantes pour les gens.
Et pendant 2 semaines, la dizaine de postiers mobilisés devra travailler d'arrache-pied. Objectif, livrer tous ces paquets à leur destinataire.
Je dois prendre tous ces colis, toutes ces lettres et enregistrer ces courriers un par un dans mon ordinateur pour les envoyer à Ramallah, Jénine ou encore Kalkilia.
Un travail de titan pour une livraison exceptionnelle. L'accord signé l'année dernière entre Israéliens et Palestiniens et censé réguler la livraison du courrier n'est toujours pas entré en vigueur.
L'Iran demande plus aux Occidentaux pour maintenir l'accord sur le nucléaire. Nous pensons que l'Europe n'est pas encore prête à payer le prix en défiant les sanctions américaines. Voilà ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif. Les États-Unis ont rétabli le 6 août une série de sanctions contre Téhéran et ont menacé les pays qui continueraient de commercer avec l'Iran. Les entreprises ont eu un délai de 90 à 180 jours pour quitter le pays, mais beaucoup sont déjà partis, comme le constructeur allemand Daimler. L'Iran regrette que les déclarations de soutien des pays occidentaux à l'accord sur le nucléaire ne semblent pas suivies d'actes. En Inde, le bilan des inondations de la région de Kerala ne cesse de s'alourdir. 357 personnes décédées au dernier décompte. Cette région touristique du sud du pays subit depuis la fin du mois de mai des pluies torrentielles qui ont déclenché des glissements de terrain et des inondations. Des villages entiers ont été emportés. 3000 camps d'urgence ont été mis sur pied par les autorités. 350 000 personnes ont dû quitter leurs habitations. Des milliers de personnes sont encore sinistrées et attendent l'arrivée des secours. Le point sur la situation sur place avec notre correspondant Antoine Guinard.
Si l'alerte rouge a été levée par le département météorologique indien, la situation reste urgente au Kerala, où des milliers d'habitants attendent les secours, réfugiés sur le toit de leur maison ou encore dans des arbres. L'armée et la marine, déployées en nombre ces derniers jours, ont déjà secouru plus de 23 000 personnes selon le ministère indien de la Défense. Les inondations, qui ont également provoqué d'importants glissements de terrain, ont complètement ravagé l'État. De nombreuses routes, voies ferrées et parfois des villages entiers ont été engloutis. On estime désormais à 600 000 le nombre de déplacés qui vivent provisoirement dans quelques 2000 camps ouverts à travers la région. Le Kerala est complètement paralysé après 10 jours consécutifs de pluies diluviennes qui ont fait déborder les nombreuses rivières de l'État. Outre les 62 millions d'euros débloqués par le gouvernement indien pour le Kerala, cette catastrophe a généré une vague de solidarité en Inde avec de nombreux appels aux dons pour les victimes à travers le pays.
Antoine Guinard. Un nouveau tremblement de terre de magnitude 6,9 vient d'avoir lieu en Indonésie sur l'île de Lombok. Un premier séisme avait eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'île de Lombok est touchée par des répliques du séisme 2 semaines après un premier tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts. Les Vénézuéliens auront demain de nouveaux billets, mais ceux-là auront 5 zéros en moins. La mesure a été prise par le président Maduro pour essayer de trouver une issue à la crise économique que connaît le pays. L'inflation pourrait atteindre 1 million de % cette année, selon le Fonds monétaire international. Bonjour Lucas Caltritti.
Bonjour.
Nicolas Maduro n'en est pas à sa première réforme économique.
Non, pas du tout, Elie. Nicolas Maduro a également indexé le bolivar, la monnaie du pays, sur une crypto-monnaie qu'il a fondée, le pétro. Celle-ci est elle-même indexée sur le pétrole et les minerais présents dans le sous-sol du Venezuela. Le président Maduro a aussi augmenté le salaire minimum et considérablement, il est multiplié par 34. Le prix de l'essence a lui aussi augmenté, ce qui est inédit pour ce pays producteur de pétrole. Mais Thomas Posado, politiste et spécialiste du Venezuela, est pessimiste malgré toutes ces réformes.
Le pays est jugé en défaut partiel de paiement selon plusieurs agences de notation. Une dette qui est estimée entre 100 et 150 milliards de dollars et les États-Unis ont prononcé des sanctions, c'est-à-dire empêchent les entreprises américaines et les citoyens américains de contracter des obligations à l'égard de Caracas et de l'entreprise pétrolière publique. Donc, ce qui accroît pour l'État vénézuélien les difficultés d'obtenir des liquidités sur les marchés.
Et au mieux pour Thomas Posado, les réformes pourraient simplement ralentir l'hyperinflation. À cela, il faut aussi ajouter un autre problème pour le Venezuela, mais qui est d'ordre structurel. Le pays produit peu, son économie est dépendante du pétrole et les cours de l'or noir baissent, tout comme sa production. Un peu plus d'un million de barils sont extraits quotidiennement aujourd'hui, contre 3 millions il y a quelques années.
Merci Lucas Scaltriti pour ces précisions. En Chine, un cas de peste porcine africaine a été découvert vendredi dans un abattoir du centre du pays, deux semaines après un autre cas à 1000 km plus au nord. La maladie est très contagieuse, de quoi inquiéter le premier producteur et consommateur de porc au monde, Simon Le Plâtre.
Danger sur les élevages chinois. Vendredi, un deuxième foyer de peste porcine a été découvert dans un abattoir de Jiangzhou dans le Henan, au sud de Pékin. 30 carcasses de porc étaient infectées par le virus, d'après les autorités. Le bâtiment a été mis en quarantaine pour 6 semaines et plus de 1300 bêtes ont été abattues. La situation est inquiétante car le virus est très contagieux. Les porcs infectés hier avaient traversé le pays depuis le nord et ont donc potentiellement croisé la route du premier foyer d'infection découvert il y a 2 semaines dans le Liaoning. La maladie se transmet entre animaux d'élevage ou par les tiques ou les sangliers dans la nature. Les humains ne sont pas touchés, mais ils peuvent être des vecteurs de la maladie. Des cas de peste porcine avaient été découverts par le passé en Afrique, en Europe de l'Est et en Russie, mais jamais en Asie de l'Est. À Cuba, en 1971, une épidémie de peste porcine s'était soldée par l'abattage de 500 000 porcs. Or, le porc est la viande préférée des Chinois. La Chine est de loin le premier producteur et consommateur de porc au monde. C'est une industrie qui se chiffre à 730 milliards d'euros en Chine et la densité des élevages pourrait favoriser la diffusion du virus.
Simon Le Plâtre. Le ministre italien des Transports s'est prononcé aujourd'hui pour des sanctions à l'encontre de Malte. Danilo Toninelli accuse Malte de refuser son aide aux migrants et de laisser l'Italie traiter cette crise seule. Sur Twitter, il a appelé l'Union européenne à sanctionner Malte. Le gouvernement italien, formé par les contestataires du mouvement 5 étoiles et la Ligue, un parti d'extrême droite, a fait de la lutte contre l'immigration l'une des priorités de son mandat. Depuis 2014, plus de 650 000 migrants ont débarqué en Italie. Les négociations sur le Brexit vont reprendre dès la semaine prochaine. Après la pause estivale, les mouvements politiques britanniques se remettent en ordre de bataille. L'un des cofondateurs de la marque de vêtements Superdry a fait don d'1 million de livres sterling au mouvement anti-Brexit. Et de leur côté, les Brexiteurs, ceux qui sont favorables à la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, sont également repartis à l'assaut. À Londres, les précisions de Marina Darras.
L'idée qu'un second référendum sur le résultat final des négociations sur le Brexit pourrait être organisé gagne de plus en plus de terrain. Après avoir gagné le soutien de la députée et ancienne ministre de l'Éducation, Justine Greening, le mois dernier, le mouvement pour un second référendum a aujourd'hui reçu un don exorbitant d'1,1 million d'euros. C'est l'entrepreneur britannique Julian Dunkerton, cofondateur de la marque de vêtements Superdry, qui a annoncé vouloir personnellement financer l'organisation. D'après lui, son entreprise n'aurait jamais connu un tel succès si le Royaume-Uni ne faisait pas partie de l'Union européenne. Mais l'opposition se met également en ordre de bataille. Le charismatique leader d'extrême droite, Nigel Farage, a annoncé son retour pour soutenir le mouvement politique anti-Brexit qui réclame un divorce net et rapide avec l'UE. Au milieu de tout cela, le gouvernement s'organise lui aussi alors que le nouveau ministre du Brexit, Dominic Raab, se rendra à Bruxelles cette semaine pour reprendre les négociations. Son ministère s'apprête à publier une série d'avis techniques destinés à préparer les entreprises, autorités locales et citoyens britanniques à l'éventualité d'un Brexit sans accord. Plus de 2 ans après le référendum du 23 juin 2016 qui a officialisé la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la campagne pour ou contre le Brexit continue.
Jim Ratcliffe devient officiellement l'homme le plus riche du Royaume-Uni. Entrepreneur, patron du groupe de chimie Ineos, il détiendrait un patrimoine estimé à 21 milliards de livres d'après le Sunday Times. L'homme d'affaires a récemment suscité la polémique en Angleterre. Partisan du Brexit, il a en effet décidé de transférer sa fortune à Monaco. 2 détenus se sont suicidés dans les prisons françaises cette semaine. Le premier est mort lundi dans sa cellule de la maison d'arrêt d'Angers. Le deuxième est mort vendredi au centre de détention de Nantes. Les 2 décès ont été confirmés par l'administration pénitentiaire. Depuis le 1er janvier, 60 détenus se sont donné la mort dans les prisons françaises, selon un décompte officiel arrêté au 23 juillet. La météo de demain, désormais, dans la matinée, il faudra compter sur des ondées sur la partie nord-ouest de la France. Des températures fraîches également de Lille au Pays de la Loire. 22 degrés à Paris, par exemple, et 18 degrés en Normandie. C'est la fin de ce journal. Cette édition a été réalisée avec Caroline Benotto, à la technique Kevin Boisseau.